Bonsoir à vous tous aujourd'hui. Toute la culture que j'aime. Ce soir, un programme que je vous ai concocté. Voilà, nous allons parler théâtre, hein, bien sûr, l'art d'avoir toujours raison. C'est au Théâtre Tristan Bernard. Je vais recevoir Sébastien Valigna dans quelques instants qui va nous parler de cette pièce. C'est jusqu'à fin mai, hein, au Tristan Bernard. Ensuite, nous allons parler toujours théâtre, ça, c'est l'amour, avec Riyad Ghami, dans quelques instants également. Également, exposition photo avec un photographe italien, un phare de la technique photographique depuis les années 50-60, l'italien Guido Guidi. Et là, je recevrai la directrice du Bal, c'est en plein cœur de Paris, à côté de la place Clichy. C'est un lieu où il y a beaucoup d'expositions photos. Voilà. Mais avant cela, donc, nous allons parler de l'art d'avoir toujours raison. Bonsoir, Sébastien Valigna.
Bonsoir. Merci de m'avoir invité.
Alors, ce spectacle, oui, original, surprenant. On ne sait plus trop, hein, si on est dans le théâtre, si on assiste à une conférence avec diaporama faite. Donc, alors, je vais un peu resituer. Je vais faire une introduction. Donc, nous sommes devant deux spécialistes, deux scientifiques qui nous parlent. À un pupitre, ils sont à leur pupitre avec des écrans derrière. Ils vont nous parler de la manière de réussir une campagne politique. Comment remporter une élection? Donc là, on est en plein dans le vif du sujet, puisque ce week-end, voilà, vous savez ce qui se passe. Alors, c'est très bien vu, c'est drôle, il y a des recherches, et bien évidemment, d'informations sur toutes les campagnes électorales que vous avez effectuées. Donc, nous avons devant nous deux spécialistes, Bruno et Jeanne. Ils vont exposer leur méthode, hein, à l'aide de PowerPoint, et l'objectif qu'ils donnent en tout cas aux participants, à leur clientèle, c'est convaincre coûte que coûte et peu importe les moyens. Ils vont nous donner une méthode rapide et simple, infaillible, en 5 points. Ils vont nous démontrer tous les mécanismes en politique. Alors, Sébastien Valigna, vous allez un peu nous éclairer. Vous êtes auteur, metteur en scène. Vous interprétez donc Bruno, hein, dans ce duo tonitruant de ces deux formateurs. Vous avez fondé la compagnie Cassandre en 2012. Voilà, créé beaucoup de spectacles. Vous vous intéressez plus particulièrement donc au sujet, hein, lié à l'actualité, aux sciences sociales. On n'est pas dans le romanesque, hein, bien sûr, pour vos spectacles. Alors voilà, vous vous intéressez justement, voilà, c'était une question en fait, plutôt à l'actualité pour vos pièces de théâtre.
Alors c'est ça. Alors juste une petite précision. Donc en effet, je suis co-auteur et metteur en scène du spectacle. Je joue parfois le spectacle, mais sur le spectacle, je joue à la fois à Tristan Bernard et en province. Et donc moi, j'assure les dates qui ont lieu en province. Mais c'est David Guez qui joue à Paris, le même rôle, le Bruno. Et pour revenir sur ce que vous dites, en effet, le point de départ de mon travail, c'est pas un texte préexistant, c'est pas un roman ou une pièce de théâtre. C'est plutôt, je pars souvent d'un questionnement politique. Ou quelque chose qui me surprend, je sais pas, je peux me poser une question sur c'est quoi cette fameuse crise des subprimes dont tout le monde parle et qu'on n'a pas l'air de pas bien comprendre, à quoi ça sert de commémorer la Première Guerre mondiale. Et puis après, je lis des travaux de chercheurs en sciences humaines et sociales qui se sont posés les mêmes questions que moi, mais qui, eux, ont apporté des éléments de réponse. Et puis après, avec des auteurs et des autrices, je vais essayer de travailler cette matière pour essayer d'en faire d'une manière ou d'une autre une pièce de théâtre. Donc tout ce qu'on raconte va être vrai, en tout cas c'est validé par des travaux scientifiques, voilà. Et par contre, c'est du théâtre, et même, ça c'est un challenge supplémentaire qu'on s'impose en écriture, on essaye vraiment à chaque fois d'en faire des comédies, parce que je pense que quand on s'amuse, quand on est dans des affects joyeux, ça n'empêche pas de réfléchir, alors que si on est dans un affect triste, et ben des fois ça nous éteint un petit peu, on est juste, enfin, je parle pour moi en tout cas, mais je suis submergé par l'émotion, et du coup, ben, j'arrive plus trop à penser, quoi. Voilà.
Oui. Alors, donc, comment, oui, pardon, allez-y, excusez-moi, je vous ai coupé.
Ah non, pardon. Oui, juste pour revenir du coup sur la démarche de ce spectacle-là précisément, peut-être, si je peux juste dire d'où c'est venu celui-ci.
Oui.
L'origine. Eh ben, c'est la question de la propagande. Parce que quand on dit le mot propagande, souvent, on pense, je sais pas, ou à l'Allemagne nazie, ou à la Russie soviétique, peut-être la Russie de Poutine, mais on a l'impression que c'est un peu toujours chez les autres. Et quand on lit ce qu'écrivent les spécialistes de la propagande, en France, par exemple, David Colomb, il nous apprend que, en fait, la propagande, elle a été inventée dans les démocraties, on est soumis à énormément de messages de propagande, nous, ne serait-ce que la publicité, c'est 1200 messages de propagande par jour qu'on reçoit. Et il y avait un intellectuel américain qui s'appelle Chomsky qui disait, bah, si on voulait que les démocraties marchent un peu mieux, il faudrait donner des cours d'autodéfense à l'école pour se protéger. Et du coup, on arrive à mon spectacle, je me dis, tiens, à quoi ça ressemblerait un petit cours d'autodéfense au théâtre. Et plutôt que de faire un cours qui serait peut-être un truc un peu didactique et fastidieux, j'ai imaginé faire ce pas de côté, d'imaginer les deux chercheurs que vous avez décrits qui prétendent avoir trouvé cette méthode pour remporter n'importe quelle élection et qui vont donner au public, qui est comme un parterre de candidats désireux de l'emporter lors d'une prochaine élection municipale ou autre, et on leur donne toutes les méthodes, toutes les astuces qu'utilisent parfois nos responsables politiques pour nous manipuler.
Oui, c'est ça, vous parlez de manipulation, vous parlez de propagande, vous nous démontrez de manière très drôle quels en sont les mécanismes. Hein. On voit bien les mécanismes de persuasion, oh là là, la déconstruction du langage. Hein. Il y a des termes qu'on dit, on dit pas syndicat. Hein.
On dit pas syndicat, voilà. Bien sûr, on dit partenaires sociaux. En effet, on utilise vraiment les stratégies rhétoriques qui sont parfois utilisées par nos responsables politiques. On voit bien, par exemple, en ce moment, si on prend le conflit qui a lieu au Moyen-Orient, qu'on a beaucoup de mal à dire qu'on est en guerre, par exemple, ou la force des mots, on fait des frappes chirurgicales avec des dommages collatéraux, et c'est pas des missiles qui tombent sur des écoles de jeunes filles. Vous voyez, donc c'est vraiment important c'est une stratégie d'euphémisation du réel pour faire comme si c'était pas si grave, en effet. Et donc, il y a des scientifiques qui sont intéressés à la parole politique, ont regardé quelles étaient les méthodes utilisées. Alors, des fois, c'est un peu général, comme là, l'euphémisme, tout le monde en fait. Là, par exemple, il y a les alliances en ce moment. Bon, ben, on va faire des hyperboles pour parler de l'alliance entre telle et telle partie qui serait infamante. Et puis, de l'autre côté, on va euphémiser en disant que c'est pas si grave et que, voilà. Donc, il y a tout le temps ces stratégies. Puis, des fois, des stratégies spécifiques à la langue de certains responsables politiques. Par exemple, il y a des livres entiers qui sont écrits sur la langue de Nicolas Sarkozy, d'Emmanuel Macron, tout ça, il y a des linguistes qui s'intéressent à eux. Et donc on s'appuie sur ces ouvrages-là pour rentrer. Bah, des fois, c'est des considérations un peu générales, les euphémismes, on les connaît, mais des fois, des trucs très spécifiques que, en tout cas, à titre personnel, je ne connaissais pas. Et sauf à lire des livres de linguistique ou de logométrie, en général, on n'est pas au courant de ces travaux de recherche. Quoi.
Oui, c'est ça. Ou alors, comment poser une question, finalement, en nous orientant. Hein, c'est ça, nous orientant tout de suite. Hein, on est quasiment amené à la réponse.
Ah, tout à fait. Les sondages posent problème. Il y a tout un tas de problèmes avec les sondages. On voit bien que là, ils sont quand même malheureusement massivement trompés lors des élections municipales. C'était des sondages d'opinion, mais quand c'est des sondages, des fois, où la question est extrêmement orientée, quelle que soit la réponse qu'on donne, si jamais je commence à poser question aux gens, est-ce que vous pensez que l'immigration est un problème en France? Oui, non. Bon, les gens vont peut-être avoir plus tendance à répondre oui que si je leur dis, selon vous, quel est le principal problème en France et que je leur fais choisir entre le logement, le pouvoir d'achat, au milieu, il y a l'immigration. Les études montrent que l'immigration n'est pas du tout une préoccupation centrale pour les Français. Ils pensent plutôt à comment se loger, comment se chauffer, comment remplir leur frigo, ce genre de truc, quoi. Donc, le fait de dire regardez, mais du coup, ça devient, on pose que la question sur l'immigration, on arrive à beaucoup de gens s'inquiètent de ça, bon, pour différentes raisons, et on se dit, c'est un des problèmes pour les Français. Mais si on avait posé les questions différemment, ce serait peut-être pas ça le problème qui serait sorti en premier.
Oui, c'est ça. Alors, revenons un peu à la mise en scène, puisque c'est une pièce de théâtre. hein, de comédiens, enfin pas vous puisqu'il y a plusieurs équipes, hein, mais le comédien, oui, oui. Voilà, qui interprète Bruno et l'autre intervenante, l'autre formatrice face à nous. Alors parlons un peu de la mise en scène, donc deux pupitres et ces écrans sur le côté avec des PowerPoint.
C'est ça, le code qu'on a voulu fabriquer, alors c'est aussi bien en écriture qu'en mise en scène, tout va dans le même sens, c'est de dire si on imaginait que les gens viennent à une formation. Donc on pose le cadre d'une formation, donc on a les chercheurs qui sont là, au début qui sont avec le public, en train de les saluer, de remercier les gens pour être venus à voir la formation. Donc il y a des fois des réactions un peu bizarres dans le public, surtout quand monsieur a suivi madame, il sait pas trop ce qu'il va voir, et du coup il fait « mais qu'est-ce que tu m'emmènes voir, c'est quoi ce truc ?» Il y a des réactions qui sont un peu bizarres. Les spectateurs, bien sûr, se font pas avoir, ils chopent le code. Hein, mais donc, on joue sur ce code-là et on va faire vraiment comme si les gens venaient suivre un cours, quoi. Donc, il y a des PowerPoint, il y a des travaux pratiques, il y a des moments où le public est invité à participer, donc il peut éventuellement... Alors, c'est pas très participatif comme spectacle. Hein, personne ne monte sur scène, il n'y a rien de désagréable comme ça, mais il y a une espèce de participation volontaire un petit peu de la salle. Et on avance comme ça au fil d'une formation complètement farfelue, puisque, bien sûr, ces chercheurs qui disent avoir trouvé une méthode pour gagner n'importe quelle élection, c'est juste n'importe quoi. Mais sous couvert de ce n'importe quoi et de ces deux chercheurs, dont une est surdiplômée, extrêmement brillante, et puis l'autre a une tendance à digresser un peu plus, peut-être un peu plus clownesque, eh ben on va apprendre réellement des choses. Ces deux clowns vont nous dire, avec humour, des choses assez sérieuses.
Finalement. Oui, c'est ça. Alors, vous parliez justement des comédiens. Qui interprète Jeanne à Paris?
Donc c'est Maya, bien Maya, hein, c'est ça, Maya. Voilà, ouais. Tout à fait.
Maya, alors elle est convaincue par Macron, prof universitaire, voilà. Et donc
alors,
elle...
oui, alors c'est la chercheuse la plus brillante de ce groupe interdisciplinaire de recherche pour l'accession aux fonctions électorales, donc la GIRAF. Et en effet, le but de la GIRAF, c'est d'aider les gens à accéder aux fonctions importantes. Et donc, leur ligne politique, c'est souvent une question qui s'est posée, mais alors c'est un spectacle de droite, de gauche et tout ça. En tout cas, pour les personnages, la ligne qu'ils ont, eux, c'est qu'ils sont fans des gagnants. Parce que pour eux, l'élection, d'ailleurs c'est ce que disent les chercheurs en sciences politiques, l'élection n'est pas le processus qui permet que arrivent au pouvoir les personnes les plus compétentes, parce que c'est pas la compétente qui est mesurée lors d'une élection. C'est celle qui a réussi à convaincre via le processus électoral. Donc en fait, les personnes qui sont élues ne sont pas forcées. Des fois, c'est les plus compétents, sans doute, j'espère. Mais d'autres fois, c'est simplement les meilleurs candidats. Et donc, ils apprennent aux gens à devenir le meilleur candidat, n'est-ce pas? Et en effet, celui qui a été le meilleur candidat ces dernières années, jusqu'à preuve du contraire, qu'on aime, qu'on approuve ou pas sa politique, c'est Emmanuel Macron, qui a réussi à être président de la République deux fois de suite. Donc pour elle, c'est le modèle à suivre. Et donc il y a une espèce d'humour là-dessus, puisque Bruno, lui aussi, est bien obligé de reconnaître que c'est le meilleur, même si on sent qu'il aurait sans doute voulu que ce soit pas dit aussi explicitement.
Oui. Et donc l'autre formateur, intervenant, comédien, qui joue pour Bruno, c'est David, qui est également très percutant, hein, très très drôle, très percutant. Alors lui, il est enseignant en géographie, voilà, dans un lycée, et ça, la mise en scène fait que il va nous expliquer, hein, comme je disais tout à l'heure, tous les mécanismes de persuasion en politique.
Tout à fait. Donc c'est des duos un peu classiques dans le théâtre, c'est qu'il y a quelqu'un qui cadre et qui est brillant, et côté il y a l'autre qui est censé être son assistant ou son second et tout ça, et qui finalement va digresser, faire des pas de côté, faire trébucher ce truc qui devrait être hyper bien rodé. Et évidemment, ça se passe pas exactement comme c'était prévu. On s'amuse de ces codes-là qui sont amusants, quoi.
Ça dérape un peu, ça dérape même
ça
souvent.
Oui.
Quand vous montrez, quand les comédiens montent, par exemple, les affiches, hein, il y a eu beaucoup de recherches, d'ailleurs, sur toutes les campagnes politiques et électorales passées. Je pense à ces affiches, là, sortons du tunnel. C'est quoi,
oui. C'est ça, à un moment, parce que le spectacle est quand même un peu dense, on donne beaucoup d'infos, puis il y a des moments qui sont plutôt des moments vraiment de franche rigolade, où il faut un petit peu s'aérer, et où là, on a essayé de faire un inventaire des affiches qui nous semblaient les plus absurdes ou des fois les plus ratées de ce qu'on a trouvé. Alors on a un peu l'embarras du choix, mais on a trouvé quelques-unes qui sont assez savoureuses. Et là, vous faites référence à une image où on voit quelqu'un qui fait de la spéléo vraiment, qui est au fond avec un casque, un candidat qui s'appelle Éric Gilly, et dont le slogan est « Sortons ensemble du tunnel ». Alors ça ne ressemble pas du tout à une affiche, une vraie affiche, mais c'est effectivement une vraie affiche. Puis après, on va vérifier sur les sites Légifrance combien ces candidats ont fait de voix. On s'aperçoit qu'ils ont fait même pas 1% des voix. Donc, plutôt que de se moquer, on se moque un peu d'eux en disant mais faites attention, faites appel à des graphistes, faut pas faire son affiche n'importe comment, quoi. C'est un moment un peu savoureux parce qu'on s'est tous marrés en passant dans la rue devant certaines affiches. Et là, le fait de le faire collectivement, mais c'est d'ailleurs un des ressorts du spectacle puisque souvent, on a l'intuition que les politiques nous manipulent ou que tel ou tel argument était pas bon. Donc on met ça en dit oui, c'est de la langue de bois ou on se retrouve à faire une généralité. Et moi, je pense qu'il faut pas faire ça, qu'il faut réussir à s'entraîner à décortiquer le discours. Et donc, des fois, on s'arrête sur certaines phrases de responsables politiques. On se dit, mais c'est pas vrai qu'il a dit ça, je l'ai pas vu. Et on s'en amuse collectivement. Par exemple, on cite Olivier Véran qui, à l'époque du Covid, avait dit aux parents qui avaient peur d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils avaient peur qu'ils tombent malades et aux enseignants qui avaient peur que leur lieu de travail devienne des foyers infectieux. Il avait dit cette phrase incroyable à l'Assemblée. L'école n'est pas un foyer infectieux. Par contre, l'école, comme tous les lieux collectifs, est un lieu où le virus peut circuler.
Oui.
Donc on voit bien sur une phrase comme ça l'absurde, le vide de la langue politique et le fait de se réapproprier ça, de s'arrêter un petit peu dessus collectivement, eh ben c'est quand même, je crois, relativement agréable. C'est une petite vengeance, quoi, quelque part.
Oui, c'est un peu une parodie là que vous nous montrez, hein, une parodie d'une campagne politique réussie.
Oui, une parodie, ou je dirais une caricature, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire on va appuyer sur certaines lignes de force qui nous paraissent saillantes. Quand quelqu'un fait un dessin, eh ben on va vous faire, vous avez un nez un peu important, ou c'est vraiment un gros nez, donc c'est pour faire ressortir ce qui vous caractérise. Et là, comme notre propos, c'est la question de la manipulation, ben on va faire ressortir les moments où les personnalités politiques de droite comme de gauche utilisent des techniques assez peu éthiques pour nous convaincre. Et donc, bah, du coup, ça crée des effets comiques, parce que du coup, on met une loupe sur le truc qu'on n'a pas trop vu, parce que c'était au milieu de quelque chose d'un peu... C'était noyé dans la masse des discours, parce qu'on est tous noyés par le flux d'informations.
Oui. Alors, vous parliez de toutes vos sources, hein, des informations, des exemples, hein, de campagnes que vous nous donniez. J'ai noté également la phrase, la citation d'Alexandre Dumas, utilisée par Gérald Darmanin, hein, un pays sans police, est un grand navire sans boussole et sans gouvernail.
C'est ça. C'est une citation qui avait déjà été faite par Gérard Collomb à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, un discours d'hommage à la police. Donc il commence son discours en faisant un sophisme. Donc un sophisme, c'est un raisonnement qui a l'apparence de la logique mais qui l'est pas, et qui est volontairement conçu ainsi pour tromper l'auditoire. Donc l'idée, c'est que je vais faire un raisonnement un peu faux. Il y en a un qui est très classique, c'est l'argument d'autorité. C'est, on va citer une personnalité politique ou quelqu'un de respecté par notre auditoire, ça peut être quelqu'un qui n'est pas un politique. Et on fait en sorte qu'on se dit, bah, si cette personne cite telle et telle personne, c'est qu'ils ont sans doute un peu les mêmes idées. L'archétype absolu étant le général de Gaulle. Aujourd'hui, tout le monde se revendique de Gaulle, y compris le Rassemblement National, qui a été son ennemi historique. Et donc, là, Gérald Darmanin commence un discours d'hommage à la police en disant, comme disait Alexandre Dumas, un pays sans police, c'est un grand navire sans boussole. Donc on se dit, ok, bah très bien, mais si en fait, il a pas lu la phrase d'Alexandre Dumas jusqu'au bout, parce que si on va au bout de la phrase, Dumas dit, « D'où vient donc alors que pour occuper une fonction importante, pour remplir une mission conservatrice, on choisit d'ordinaire des idiots de la plus laide espèce ?» Oui. Donc c'est un petit peu amusant pour un discours d'hommage à la police de citer quelqu'un qui disait, malheureusement, tous les policiers sont stupides. Et bon, après, du coup, Gérald Darmanin n'était pas responsable de ça. C'est sans doute la personne qui leur a écrit leur discours qui a été cherchée sur citation du Monde, je sais pas quoi, dans des dictionnaires de citations qu'on trouve sur Internet. Mais on trouve ça assez savoureux pour montrer à quel point ça n'a aucun poids de citer Dumas comme si on était érudit, alors qu'en fait, on n'a pas lu son bouquin, quoi.
Oui, c'est ça. La phrase a été finalement coupée. Et voilà, donc ça nous montre un peu la manipulation de certains discours politiques. Comment peut-on qualifier ce type de théâtre finalement que vous nous proposez, théâtre hyper réaliste, théâtre conférence?
Oui, c'est dans la famille des conférences. Hein. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Hein. D'autres metteurs en scène font ce boulot depuis longtemps. Je pense en particulier à Frédéric Ferrer. Moi, je travaille en général dans ma compagnie. J'appelle ça des comédies documentées parce que on s'amuse quand même globalement et on apprend des trucs. Voilà, mais du coup, c'est un classement. C'est comme ça que je parle de mon travail à moi. Il y a pas de, comme c'est moi qui l'ai inventé ce truc.
Oui.
Ça perd pour l'instant personne est dedans. Mais voilà, plutôt, voilà, on peut dire que c'est une conférence théâtrale, par exemple.
Oui. Et il y a, où... je pense, ça, il y a Clément Viktorovitch également, qui avait fait d'ailleurs l'art de ne pas dire.
Ne pas
c'est
dire.
Ça. L'art de ne
oui,
pas dire.
Oui, alors Clément Viktorovitch, évidemment, c'est un spécialiste de la rhétorique. Alors, contrairement à nous, lui, c'est un vrai chercheur, hein, donc c'est. Et on s'est appuyé sur son travail, pas son travail théâtral, mais le travail de vulgarisation qu'il fait dans ses ouvrages. Et en effet, il a décidé de monter sur scène. D'ailleurs, il joue en ce moment aussi, je sais pas où, je crois. Et donc là, c'est un peu donc pareil sur un format conférence où il y a, je crois, un homme de l'ombre qui revient pour dire tous les secrets du pouvoir. Donc il y a pas mal de spectateurs qui voient les deux. D'ailleurs, je pense que c'est des spectacles qui sont assez complémentaires parce que. Moi, je viens du théâtre, donc du coup, je pense que le spectacle que je fais est plus théâtral, entre guillemets, mais lui, il a la force d'avoir le socle de connaissances, il fait partie de nos sources, c'est lui l'intellectuel. Et donc aussi, il y a beaucoup de gens qui ont pris beaucoup de plaisir à voir son travail sur scène, qui voient les deux et qui nous disent c'est rigolo, ça se complète, parce qu'on parle pas des mêmes choses dans le spectacle.
Oui, donc c'est l'art d'avoir toujours raison au Théâtre Tristan Bernard. Sébastien Valignat, vous êtes l'auteur, metteur en scène et vous jouez en alternance, hein, puisque le spectacle tourne énormément et donc vous êtes plusieurs équipes de comédiens. Hein. On le disait tout à l'heure, on peut parler de théâtre documenté, théâtre conférence. Alors, ce qui est quand même à noter pour conclure, c'est qu'il y a un énorme travail de sources, hein, de recherche, hein, puisque toute votre
c'est là vraiment la spécificité du travail, c'est qu'on travaille vraiment sur des documents. Donc il y a un gros temps de documentation. Pendant des semaines, je lis des livres de sciences politiques, de sociologie, de linguistique. Et puis des fois, après, avec les auteurs, on essaie de trouver des portes pour raconter ça différemment.
Oui, une pièce vraiment originale, drôle, décapante à découvrir. C'est donc jusqu'à fin mai au Théâtre Tristan Bernard à Paris. On cite les dates, peut-être. Je crois que vous jouez que 4 jours, hein, le jeudi, vendredi, c'est ça ? Sébastien.
Alors, on joue le mardi
à 19h,
jeudi, vendredi et samedi.
Oui.
Et à chaque fois à des horaires différents, donc je veux pas dire de
les
horaires. Je crois que c'est à 19h le mardi, 21h les jeudis et vendredis, et je crois 18h30 les samedis.
Voilà, très bien. Et c'est au Théâtre Tristan Bernard. Merci beaucoup Sébastien.
Merci à vous. Bonne soirée.
À bientôt. Merci. Au revoir. On écoute tout de suite. On va écouter. Allez, Earth, Wind & Fire, September.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Earth, Wind and Fire, September, et je reçois Riyad Ghami. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes comédien, metteur en scène, auteur. Vous jouez actuellement dans la pièce Ça, c'est l'amour, aux côtés de Josiane Balasco et Marie-Lou Berry. C'est au théâtre des Bouffes Parisiens jusqu'au 26 avril. La pièce fait un tabac. Alors, je vais faire une introduction, Monsieur Ghami, et puis ensuite, bien évidemment, on va vous poser des questions sur cette pièce. Alors, tout commence le soir du réveillon de Noël. Frédéric, 60 ans, débarque à 21h à l'improviste chez sa fille cadette. L'accueil est tiède. Mathilde, sa fille, est seule. Son mari et son fils de 10 ans sont déjà couchés le soir de Noël. Et au fil des discussions et de la pièce, nous allons nous rendre compte de l'énorme crise en fait vécue par le couple et de l'emprise malsaine exercée par son mari, par Philippe sur Mathilde, avec une relation plus que toxique, vous allez nous en dire plus. Alors Riyad Ghami, vous interprétez justement le mari, le rôle de Philippe, personnage détestable, odieux. Voilà, alors ça, pas facile de jouer ce personnage détestable.
Non, oui, il faut reconnaître que ça n'a pas été évident d'aller explorer ce territoire-là, c'était important de montrer sur un plateau à quoi pouvaient ressembler réellement les violences conjugales et effectivement la perversion qu'elles recouvrent, quoi, et l'emprise, le système d'emprise, la manière dont dans des foyers qui paraissent extérieurement plutôt paisibles peut se cacher effectivement des logiques d'emprise, de violence qui échappent en fait aux proches.
Oui. Alors vous parlez justement de violence conjugale. Je veux juste rajouter que la pièce n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans quelque chose. Alors bien sûr, on est dans quelque chose d'une situation bien sûr plus que problématique, mais ce qui ressort du spectacle, ce n'est pas que ça. Ce qui ressort, c'est aussi la grande émotion et la sincérité, que ce soit dans la pièce ou dans l'interprétation, notamment le duo mère-fille.
Oui, c'est ça, ouais.
Hein, mère-fille.
Oui, c'est
donc,
ça. Ce qui prévaut quand même, c'est effectivement la relation qui se fait jour entre la mère et sa fille. Donc la mère effectivement arrive le soir de Noël à l'improviste parce qu'elle s'est engueulée avec son autre fille. La pièce commence vraiment comme une comédie, hein. Il y a 45 minutes qui sont vraiment de la pure comédie, et c'est un peu là que le piège se tend. Mais oui, on comprend au fur et à mesure que, en dépit du fait qu'elle vient par hasard, elle a quand même certains doutes, quoi. Elle a certaines réserves à l'endroit de son beau-fils. Elle sent bien que quelque chose se trame. Et d'une certaine façon, même que ce soit inconscient ou pas, elle vient aussi sauver sa fille. Et c'est un peu ce qui se joue pendant la pièce, quoi. D'autant plus que, et c'est là que la pièce est très intéressante, se rejoue en fait dans le quotidien de Mathilde, donc de la fille de Frédéric, se rejoue quelque chose que sa mère a vécu par ailleurs. C'est-à-dire que je trouve que là où la pièce est vraiment brillante, c'est qu'elle parle aussi de la répétition de schémas. C'est-à-dire comment les traumas se répètent quand ils sont pas traités, quoi.
Oui, tout à fait. Vu que Mathilde, donc la fille, en effet, voilà, on va se rendre compte que sa mère, comme vous venez de le dire, a déjà vécu une violence de la part de son mari. Alors le duo donc mère fille au plateau sur la scène, c'est mère fille dans la vie.
Absolument. Mais oui, je pense que ça aussi c'est un coup de génie, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement tout ce qui est la complicité d'une mère et de sa fille, et puis la complexité aussi de cette relation n'a pas besoin d'être fabriqué. Ça existe dans l'esprit des gens, mais ça existe aussi sur le plateau. Donc en fait, il y a vraiment le fond rencontre la forme, quoi. Il y a quelque chose de très authentique qui se produit sur le plateau, et puis je pense que que les gens voient ça et sont très touchés par ce double niveau de lecture, quoi, disons.
Oui, je pense que c'est pour ça que toute la salle est debout à la fin, très émue. Hein. Moi, j'ai bien vu que les spectateurs sont hyper émus, la larme à l'œil en sortant. C'est tous les soirs comme ça.
Soirs. Écoutez, jusque là, oui, ça a été le cas. On espère que ça va durer. Je touche du bois. Non, pour le moment, c'est vrai que l'accueil est assez fou, quoi. Les salles sont généralement très émues. Et puis, ce qui ressort effectivement des témoignages des spectateurs, c'est que ils passent une bonne soirée en dépit du fait que la pièce est parfois assez brutale, quoi. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe qui est à la fois les gens rient et à la fois il y a quelque chose de cathartique, quoi. Les gens peuvent retrouver tous retrouver quelque chose, alors que ce soit dans leur expérience personnelle ou aussi en fait dans tout ce qui ressort de l'actualité ou parfois même chez des proches, voilà, ça vient résonner chez les gens d'une manière très forte, quoi.
Oui, ça c'est l'amour. Alors le duo mère-fille, hein, Josiane Balasco, Marie-Lou Berry, a déjà joué ensemble au cinéma, mais au théâtre c'est une première.
Ouais. Je crois, ouais.
Alors, comment vous sentez-vous entre ce duo? Ça coule, ça roule.
Ça roule. J'ai vraiment de la chance parce qu'elles ont été extrêmement accueillantes avec moi, extrêmement bienveillantes, et ça se passe, ouais, très très bien, quoi. On s'amuse beaucoup, et je pense que c'est important. C'est important que ça se passe bien entre nous, parce que la pièce, comme on le disait, peut parfois être dure, pas toujours, hein. Il faut bien préciser que vraiment il y a une grande partie de la pièce, et même jusqu'au bout les gens rient, quoi. Les émotions ressenties sont multiples, quoi. Mais c'était important effectivement que ça se passe bien, parce que notamment entre Marie-Lou et moi il y a des scènes qui sont très dures, donc il faut que par ailleurs on s'entende bien, et c'est le cas. Donc c'est très très agréable.
Ouais. Vous parlez d'une osmose, justement. La pièce a été écrite par Jean-Robert Charrier, hein, qui est directeur du théâtre justement des Bouffes parisiens et de la Porte Saint-Martin. Pour le duo, finalement, il l'a écrite il y a un an.
Je crois qu'il l'a écrite, ouais, il y a à peu près une année. Alors, j'ai pas les informations exactes, mais oui, je crois que ça fait à peu près un an qu'il l'a écrit, et qu'il l'a effectivement écrit pour Josiane et pour Marie-Lou.
Oui. Et en pensant à elle, à ce duo. Alors revenons un petit peu sur votre carrière, Riad Ghami, puisque vous êtes très présent, notamment sur beaucoup de séries, hein, séries web, beaucoup de séries télé, hein. Boomers, c'est ça. Hein, éclairez-nous un petit peu. Hein.
Ça c'est effectivement des séries dont moi je suis auteur et co-auteur, je tourne sur différentes séries de façon régulière, quoi.
Et puis je voudrais aussi qu'on revienne sur votre travail d'auteur, parce que comme je disais en introduction, vous êtes comédien, metteur en scène, mais également auteur. Vous avez écrit cette fameuse trilogie sur justement le qui résonne, hein, aujourd'hui, hein, sur le monde monde oriental, monde occidental. Je pense à votre je crois que c'est une pièce d'ailleurs, Un arabe dans le miroir,
que j'avais coécrite avec un metteur en scène qui s'appelle Philippe Vincent, qui est un metteur en scène du Rhône-Alpes. Oui, moi j'ai beaucoup écrit, et j'écris encore, hein. Alors là j'écris un peu plus pour l'audiovisuel ces derniers temps, mais j'écris aussi pour le théâtre, mais j'ai beaucoup écrit, et je suis originaire de Libye, et les relations entre le Moyen-Orient, je mets des grosses guillemets, et le monde occidental m'ont toujours beaucoup intéressé, donc ça a été un peu au cœur de mon travail. La question de l'identité a beaucoup traversé les textes que j'ai écrits jusque-là.
Oui. Et puis votre interprétation, bien sûr, au cinéma, dans le rôle de... Alors, aux côtés de Podalydès, hein, et de Jonathan Cohen.
Jonathan Cohen, oui, tout à fait. J'ai joué dans... j'avais un rôle dans le film de... j'ai une panne de Cédric Kahn qui s'appelle Making Of. Voilà.
Making
Donc là,
of,
j'ai participé à un film qui était assez fou. Enfin, c'était une grosse machinerie parce qu'il y avait beaucoup de. Ça se passe dans une usine. Il y avait beaucoup de figurants, beaucoup d'ouvriers, mais ça a été une aventure assez folle, ouais.
Oui. Alors donc je rappelle la pièce dans laquelle vous jouez, hein, ça c'est l'amour, c'est au théâtre des Bouffes Parisiens avec Josiane Balasco, Marie-Lou Berry, vous-même, c'est une pièce de Jean...
Et Lucie Baumann aussi, qui est une élève de l'ESCA et qui intervient aussi dans la pièce, qui est aussi comédienne dans la pièce.
Qui intervient, oui, à la fin, un peu comme médiatrice. Ouais. La mise en scène, Julie-Anne Roth. Est-ce qu'on peut parler pour conclure de la, sans tout révéler, mais quand même de la dernière scène qui est magnifique? Très très belle dans ce chantier.
Alors,
tout d'un coup.
C'est une question. Est-ce qu'il faut qu'on en parle ou est-ce qu'il faut laisser au public?
On laisse.
Ouais, le soin de découvrir.
J'en ai un peu trop dit. On laisse. La dernière scène, en tout cas, est émouvante, hein. Très émouvante.
Ouais, ouais, ouais.
Et la musique finale. On peut parler de la musique, peut-être?
Bien sûr.
Alors, la musique est de François.
Alors, qui a composé la musique de l'intégralité du spectacle, la dernière n'étant pas de ce compositeur, pour rien vous cacher, j'ai oublié le nom de la chanteuse.
Oui.
C'est une chanson italienne, voilà, qui vient clore le spectacle et qui est très belle.
Qui est très très belle. Merci beaucoup d'avoir consacré ces quelques minutes pour l'interview, Riad Ghami. On vous souhaite plein
avec
de
plaisir.
Beaux projets, peut-être un scoop, non, sur un livre que vous écrivez ou un film en préparation, quelque chose.
Une petite web série en ce moment en préparation, mais sinon pas de scoop, non.
D'accord.
Et peut-être bientôt, espérons.
Bon, voilà. Ben on vous retrouve au Bouffe Parisien. Merci beaucoup. Alors, on va écouter Ophélie Winter. Tiens, allez, Dieu m'a donné la vie.
J'étais assise sur une pierre. Des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. Dans le ciel, maître de l'espace, il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on a eu si souvent envie de voiler la face. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. Fantômes, fantômes de l'amour. Ceux qui en accourantèrent passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Oh, je ne suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en veux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. J'ai tant de cœur, force qui guide mes pas. Dieu me donne des larmes.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous allons nous rendre au cœur de Paris, dans le 18e, au BAL, le B-A-L, qui est un lieu majeur d'exposition, photos, vidéos, cinéma, qui a ouvert il y a une quinzaine d'années, hein, en 2010. Et je reçois Julie Hérault. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes donc la directrice adjointe du BAL et vous allez nous parler de cette exposition photo qui fait venir un monde de passionnés, évidemment, de photographie. Il s'agit donc de toute la rétrospective de l'œuvre du photographe italien, figure majeure de la photographie contemporaine italienne. Il s'agit de Guido Guidi, âgé aujourd'hui de 85 ans. Et voilà, dont la rétrospective, l'œuvre, une partie en tout cas de l'œuvre, est présentée en ce moment au BAL dans le 18e. Alors il y a environ 18 séries, environ 200 photos, 60 ans de carrière, des années 56 à aujourd'hui. Son travail est proche d'un travail documentaire, mais vous allez nous en dire plus, hein. Voilà, donc à travers ses travaux, il montre son Italie natale, hein, la Romagne, hein, la beauté du territoire, présente des constructions gigantesques, architecturales, des chantiers abandonnés, des villes délabrées, mais pas que, hein, parce qu'il nous montre bien sûr la beauté aussi des habitants avec une lumière naturelle sublimé, des fragments de paysages que l'on pourrait voir ordinaires, mais qui nous parlent, hein, qui montrent aussi une façade de sociale de l'Italie. Peut-on parler, Julie Hérault, de photographie documentaire pour Guido Guidi?
Alors, est-ce qu'on peut parler de photographie documentaire pour Guido Guidi? Guido Guidi commence à pratiquer la photographie à la fin des années 60 et au début des années 70. Donc c'est évident que lui, dans ses grandes références, dans ce qui va influer sa pratique photographique, il y a la photographie documentaire américaine des années 20, des années 30. C'est un grand admirateur du travail du photographe américain Walker Evans. Il achète son catalogue de l'exposition au MoMA de 72, il va l'étudier. Donc évidemment, la photographie documentaire est quelque chose qui irrigue sa pratique. Après, dire que Guido Guidi est un photographe documentaire ne serait pas tout à fait exact et serait certainement réducteur, puisqu'en fait la pensée photographique de Guido Guidi dépasse l'aspect documentaire. Guido est quelqu'un qui a regardé aussi évidemment la peinture de la Renaissance, il étudie près de Venise, il étudie à Ravenne, donc il est baigné dans cette représentation, la mention de la perspective, les lumières de la peinture vénitienne. Donc en fait, sa pensée photographique, on va dire, découle de toutes ses influences et vient se nicher à un endroit qui est très particulier et finalement peu certainement labellisable dans la manière dont il a d'exercer la photographie. Donc ce qu'il nous propose, Guido, c'est un exercice du regard. C'est que notre regard soit aussi persistant que le sien quand il regarde, comme vous le disiez, sa Romagne natale, l'architecture, on va dire, quotidienne, et surtout les choses qu'on a habituellement sur lesquels on s'arrête peu, des chantiers, des maisons un peu abandonnées, des situations assez banales. Guido nous incite à re-regarder le quotidien.
Oui, vous parlez alors justement de peinture vénitienne. Il est question dans ces photos de, bien évidemment, du cadrage, de la lumière,
des paysages, des formes architecturales. Je pense à toutes ces portes, ces façades, ces appartements, maisons inhabitées. Qu'est-ce qui fait finalement ça, qu'il est considéré comme un photographe majeur en Europe du siècle ? Est-ce qu'on parle plutôt peut-être de construction de l'image ou du cadrage ou du sujet ?
Alors, je dirais que la pensée de photographique de Guido est ce qui lui a donné une telle renommée, d'abord chez les photographes, puisque Guido est c'est vrai un photographe de photographes, c'est-à-dire que dès les années 90, du moment où il est devenu professeur de photographie, il a été très identifié par les photographes, aussi bien italiens qu'européens, et puis une diffusion auprès d'un plus large public qui est certainement beaucoup plus confidentiel. Mais il a une pensée, et sa grande force, et une pensée photographique qui, on va dire, dépasse un domaine précis, que ce soit le sujet ou on pourrait dire la composition. En fait, chez Guido, tout cela ne fait qu'un. En fait, sa composition découle de son sujet. Donc en fait, le fond et la forme chez lui sont profondément intriqués, et c'est pour cette raison, certainement, qu'il est reconnu comme un grand maître de la photographie. Alors lui, il dit finalement, et c'est vrai, il s'intéresse à des zones qu'on regarde peu. Donc ce qui fait écho, on en a beaucoup parlé dans les années 90, à partir des années 90, en France, sur la question des non-lieux, qui était portée par le philosophe Marc Auger. Mais finalement, lui, la manière dont il construit ses images, il dit c'est aussi en ça qu'on pourrait dire finalement que mon travail est politique. Au-delà du sujet que je regarde, je construis mes images par les marges. Donc je regarde les marges et ensuite je compose les marges et ensuite je m'intéresse du centre. Et donc lui, par exemple, parle d'une politique du regard qui passe par la politique de la marge. On parle de Guido comme un maître, et pourtant il est le premier à dire qu'il réfute l'idée d'une image parfaite, définie. Lui, il dit « mes images sont des notes, des brouillons, des griffonnages ». Donc il parle aussi de la photographie comme expérimentation à partir de ce langage très spécifique. Il dit finalement « l'appareil photographique a son code, ses langages, et moi je vais essayer de comprendre ce qu'est ce langage ». Et comment je peux écrire avec, et ce que je peux dire du monde qui m'entoure. Et c'est en ça que la pensée de Guido ne peut pas être, le fond et la forme ne peuvent pas être séparables.
Oui, alors je pense par exemple à ces séries. Alors j'ajoute quand même que ce sont en général de petits formats, carrés.
Alors ce sont de petits formats, et ça c'est quelque chose qui est intéressant, puisque au début des années 60, 70, début des années 80, Guido photographie avec un appareil petit ou moyen format. Il y a effectivement l'idée de la révélation qui est très forte dans le travail de Guido. Une des séries qui ouvre l'exposition, qui s'appelle Pregangiol, où vous voyez une ombre qui finalement se dessine au fur et à mesure dans une pièce abandonnée avec une fenêtre qui donne sur l'extérieur, et cette lumière qui apparaît, l'ombre d'un arbre qui apparaît au fur et à mesure des images dans l'image, évidemment nous fait penser, quand on connaît ce que le regard de Guido a engrangé en termes d'histoire de l'art, on pense évidemment aux annonciations très présentes dans la peinture de la Renaissance, et comme ça cette lumière naissante qui donc est annonciatrice et donc qui est présente dans tout son travail.
Oui, il y a également la série Disquinoco, vous me dites si je me trompe en biais.
Disguincio, qui est effectivement cette série qu'on pourrait traduire par en biais en français. Alors ça, qui est une série qu'il fait plutôt au début de sa carrière photographique, on est années 70-80, et c'est une des rares séries finalement où il y a une forte présence de la figure humaine, mais comme l'indique le nom de la série, tout est pris de biais. C'est une série assez particulière que Guido prend lorsqu'il va travailler. À l'époque, il est alors technicien photographe pour l'IUAV, l'institut dans lequel il a suivi ses études à Venise, et donc c'est sur le travail trajet pour aller au travail, il va rencontrer des gens et il va produire toute cette série en noir et blanc. Il a cette manière assez particulière de viser, de prendre des photos n'ayant pas l'œil dans le viseur, mais en mettant l'appareil au niveau de son ventre et en visant finalement sans avoir l'œil dans le viseur, ce qui va donner ces cadrages presque ratés, on pourrait penser, sur des bouts de corps, beaucoup de mains tendues,
un talon,
et donc va nous proposer cette vision décentrée.
Oui. Oui, alors beaucoup d'autres séries, hein, puisque vous en présentez 18. La figure humaine est quand même présente, hein, dans certaines, même si, est-ce qu'on peut dire que son travail porte majoritairement sur les territoires et l'architecture ?
Alors, son travail porte effectivement majoritairement sur, en tout cas, des espaces urbanisés ou en voie d'urbanisation ou surtout désindustrialisés. Donc c'est quelque chose, on sent beaucoup une transition, des territoires en transition dans ces images qui se correspond à la période post-seconde guerre mondiale de l'Italie qu'il photographie, des architectures, de l'architecture on va dire vernaculaire, mais aussi l'architecture de plus grands maîtres. Mais finalement, je pense que son grand sujet reste ce qui nous entoure au quotidien, la banalité. Donc Guido est bien au-delà d'un photographe de paysage ou de territoire, sachant qu'il faut bien se dire ce que Guido regarde est un territoire, un paysage qui a été surreprésenté. Le paysage italien est certainement un des paysages les plus représentés, avec des images d'Épinal très fortes autour de ce que doit être le territoire italien. Et là, Guido vient proposer une toute autre vision, finalement nous demandant une attention au banal, au quotidien, à ce qui nous entoure et ce qui fait notre quotidien, et finalement ce à quoi on porte peu d'attention. Donc oui. On pourrait dire que Guido est presque plus un photographe du quotidien que du territoire.
Oui, c'est ça. J'aime bien l'expression fragment de paysage ordinaire.
Voilà.
Alors Guido, je rappelle, hein, donc l'exposition Guido Guidi est au bal à Paris jusqu'au 24 mai. Vous nous donnerez après tous les horaires d'ouverture. Il y a donc peut-être des rencontres que l'on peut, ou des visites guidées de l'exposition que l'on peut citer le 25 mars.
Oui, alors l'exposition est ouverte du mercredi au dimanche, le mercredi de midi à 20h et du jeudi au dimanche de midi à 19h. Et ensuite, deux fois par mois, des visites guidées de l'exposition sont proposées le mercredi soir, et la prochaine est donc le mercredi 25 mars.
À quelle heure ?
À 19h.
À 19h, il y a également un livre, hein, évidemment.
Il y a également une publication, un livre coédité par Mac, éditeur anglais historique de Guido Guidi, avec le bal, qui rassemble même bien plus largement les œuvres présentées dans l'exposition, avec trois textes rédigés par les trois co-commissaires italiens de l'exposition, exposition qui a été réalisée avec le Maxi, le musée des arts du XXIe siècle de Rome.
Oui, alors évidemment on ne peut pas tout dire, hein, en 15 minutes, Julie, du travail phénoménal de ce photographe majeur italien, Guido Guidi, qui a aujourd'hui 85 ans. Il a été quand même, un mot, hein, vite sur son parcours, il a été architecte, hein, au départ, hein, de formation.
Alors,
Il a enseigné également, hein.
Alors Guido, donc Guidi, a suivi à la fois des études d'architecture et des études aussi rapidement en ingénierie. Il n'a terminé aucun de ses deux cursus, devient dans les années 70 technicien en photographie pour l'Institut d'architecture dans lequel il avait étudié à Venise, et c'est dans les années 90 qu'il deviendra professeur, et donc, comme je le disais, qu'il aura ce rayonnement plus large, puisqu'il reconstitue chez lui comme un atelier ouvert pour tous les photographes qui souhaitent venir échanger, le rencontrer et même discuter entre eux. Finalement, Guido, il a une reconnaissance assez tardive, parce qu'il ne cherche lui-même pas vraiment une forte reconnaissance dans les années 80. Il va un peu exploser, il va faire partie de ce grand projet qui s'appelle Viaggio in Italia, porté par Luigi Ghiri. Mais finalement, il faudra attendre les années 90. Sa première publication, Varianti, arrive en 95 et sa première exposition en France est en 2014, soit il y a 12 ans, à la Fondation Henri Cartier-Bresson.
Oui, oui, alors beaucoup d'expositions en France, hein, de son travail. Enfin, beaucoup.
C'est non, je veux une à la Fondation. Voilà, il y en a eu une en 2014 et finalement on est la deuxième. Donc, au contraire, oui. Un travail qui a été peu montré.
D'accord. Est-ce que son travail est montré également à l'étranger ?
Alors, il a été montré, il est montré un peu à l'étranger, un peu hors de l'Italie, mais justement, tout l'enjeu de l'exposition, ici, au bal, était de rétablir Guido Guidi comme le décloisonné de l'Italie, et de parler vraiment d'une pensée qui dépasse bien les frontières de l'Italie, voilà, et qui parle vraiment d'une posture de la photographie européenne.
Oui, est-ce que l'exposition attire un public de non-initiés ou plutôt des étudiants, élèves en photographie, professionnels de la photographie?
Alors, on a toujours un public assez varié au bal, hein, qui va des professionnels de la photographie, d'un public amateur, jeune et moins jeune. Donc là, on retrouve évidemment un peu tout notre spectre de public habituel, avec voilà évidemment les jeunes, notre public plus jeune, qui ont tendance à découvrir le travail de Guido et découvrent cette écriture photographique très singulière. Et puis le public plus de connaisseurs, plus institutionnels qui, eux, en tout cas, connaissaient l'œuvre, mais la redécouvrent à travers ces 18 séquences.
D'accord. Donc, c'est au bal, à Paris, dans le 18e, exposition Guido Guidi. Le tarif est de 8 euros et 6 euros pour le jeune public. Alors, on peut peut-être préciser qu'il y a un café et une librairie.
Tout à fait. Le bal a été pensé comme un lieu d'exposition, mais aussi un lieu de vie, un lieu dédié à l'image photographique sous toutes ses formes. Il y a donc une librairie spécialisée en photographie, en maison d'édition indépendante, qui est ouverte en même temps que le bal, soit de midi à 20h le mercredi et de midi à 19h du jeudi au dimanche. Et aussi un café qui vous accueille le matin et tout au long de la journée.
Oui, très agréable le café d'ailleurs. Et on est à deux pas de la place Clichy. Donc, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas encore le bal, eh bien voilà, ça doit être chose faite dès ce week-end. Merci beaucoup, Julie Hérault.
Merci à
d'avoir
vous.
Parlé de cette très très belle exposition des œuvres photographiques de Guido Guidi. Merci.
Eh bien, l'émission touche à sa fin. Toute la culture que j'aime est terminée. Vendredi prochain, 18h, vous retrouverez Marie-Laure. D'ici là, portez-vous bien.